France Info.
Et à la une de votre journal, Solène Cressan, les États-Unis qui semblent revoir leur copie sur l'Ukraine.
Après des négociations organisées en Suisse ce week-end, une nouvelle version du plan de paix américain est validée par Kiev. Les premiers mots de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal depuis sa sortie de prison en Algérie. Face aux narcotrafiquants, vous entendrez la parole rare d'un pêcheur français qui assure avoir déjà été contacté pour aller récupérer de la drogue au large. Et puis on ira faire un tour sur les pentes enneigées des Alpes après les chutes de neige de ces derniers jours.
Bienvenue et bon réveil sur France Info.
L'Ukraine a-t-elle réussi à faire plaider les Américains en sa faveur? Difficile d'y répondre ce matin, mais tout de même. En Suisse, émissaires américains et ukrainiens se félicitent de grands progrès en vue de l'adoption d'un plan de paix. Après un premier plan imposé par Donald Trump qui donnait à Kiev une semaine pour l'accepter, les négociateurs évoquent ce matin une nouvelle version à Agathe Mahué, de quoi rassurer au passage les Européens.
Un simple communiqué de la Maison-Blanche sans déclaration du président américain. Il avait été réveillé hier à 5h du matin par les dirigeants européens à Genève, inquiets de voir dans le plan de paix de Donald Trump une capitulation forcée de l'Ukraine. Argument visiblement entendu par Washington qui écrit désormais, dans ce texte également signé par la délégation ukrainienne, que le futur accord de paix devra pleinement respecter la souveraineté de Kiev. Un accord qui semble plus proche que jamais aux yeux de Marco Rubio.
I feel very optimistic.
Très optimiste, le chef de la diplomatie américaine, qui parle d'un pas en avant significatif hier soir depuis la Suisse et d'une journée de négociation extrêmement productive, mais sans donner de détails pour ne rien compromettre, dit-il. La distance prise avec la première version du plan qui était nettement favorable à Moscou fait également dire au camp ukrainien que de très bons progrès ont été faits et que le nouveau texte reflète désormais la plupart des priorités clés de Kiev.
Agathe Mahué, journée de négociation à Genève, en Suisse, tandis que sur le front en Ukraine, la Russie revendique la prise de 3 nouvelles villes dans l'Est. Hier soir, une attaque contre Kharkiv a tué au moins 4 personnes. Et un peu plus tôt, Donald Trump s'en est pris violemment à Kiev et aux Européens, les accusant d'ingratitude. Et c'est dans ce contexte de guerre en Ukraine depuis 4 ans que le gouvernement français envisage bien une nouvelle version du service militaire. Éric Biegala, la ministre déléguée aux armées, l'a confirmé sur France Info, un service national sur la base du volontariat.
Baptisé Service National Volontaire, il vise à recruter, sur la base du volontariat, une dizaine de milliers de jeunes majeurs chaque année, de les rémunérer et de les former sur 10 mois, notamment au métier des armes. Métier strictement militaire, mais aussi spécialité technique employée dans les forces et qui sont légions. L'idée est aussi de puiser dans le gisement des jeunes talents qui ont souvent développé de vraies compétences. On pense au maniement des outils informatiques ou informationnels. Et ces compétences-là intéressent les forces armées. Les volontaires de ce nouveau service national n'auraient pas vocation à participer directement aux opérations militaires, mais plutôt à l'issue de cette formation, à intégrer la réserve opérationnelle, laquelle peut être mise à contribution sur certaines opérations, les missions Sentinelle par exemple. Ce service national volontaire prendrait la place du service national universel, abandonné en septembre dernier, car très cher et d'un intérêt quasi nul pour les forces armées. Les équipes du ministère des armées et de l'état-major planchent encore sur le projet. Restera aussi à trouver le budget pour lancer ce service national revisité. À l'heure des discussions budgétaires compliquées pour 2026, ce n'est pas gagné d'avance.
Éric Biegala.
France Info 6h03, Boualem Sansal prend la parole dans les médias français après sa sortie de prison.
L'écrivain franco-algérien a été libéré il y a 10 jours après une grâce du président algérien. Il a été emprisonné en Algérie pendant 1 an pour atteinte à l'unité nationale. Selon lui, tout est parti de sa prise de position sur le Sahara occidental. Avec des mots choisis scrupuleusement aujourd'hui, l'écrivain raconte sur France Inter ses conditions de détention.
La prison... On peut s'y habituer, hein. Il ne faut pas croire que c'est si terrible que ça.
Ah bon ?
Oui, on s'habitue, on a des amis, on a sa petite routine, la cellule, la cour, l'infirmerie, parce qu'on est dans une prison, on est obligé de garder sa souffrance pour soi. C'est silence, on pleure dans sa cellule le soir, tout seul, dans sa tête. Être prisonnier, c'est une humiliation, on vous fout le matin et le soir, on vous... Vous êtes comme un toutou, viens ici, assieds-toi là-bas, va là-bas, truc. C'est terrible, on est un chiot, quoi.
Boualem Sansal sur France Inter, l'écrivain qui s'exprime dans différents médias, France 2, Le Figaro, a également tenu à apporter son soutien à Christophe Glaize, journaliste français, toujours emprisonné en Algérie, qui sera jugé en appel la semaine prochaine. Il tient aussi à appeler à une réconciliation, dit-il, entre la France et l'Algérie. Le Premier ministre réunit tout à l'heure les membres de son gouvernement. Sébastien Lecornu doit ensuite s'entretenir avec les groupes parlementaires alors que ce week-end, l'Assemblée nationale a rejeté quasiment à l'unanimité la partie recette du budget 2026. Le texte arrive donc au Sénat dans sa version initiale, rédigée par le gouvernement. Pour la chef de file des députés Rassemblement national, Marine Le Pen, ce rejet à l'Assemblée doit conduire à la démission du gouvernement et à une dissolution.
C'est un témoignage rare ce matin sur France Info, celui d'un pêcheur face au narcotrafic.
À l'image des dockers, c'est une corporation de plus en plus ciblée par les narcotrafiquants ces dernières années, utilisée et souvent grassement payée pour récupérer des ballots de cocaïne largués en haute mer. Ce patron pêcheur de Ouistreham en Normandie, qui préfère rester anonyme, a déjà été contacté, oui, et franchir la ligne rouge peut aller très vite selon lui.
Quand on m'a approché, j'ai dit non, parce qu'aujourd'hui j'ai trop de choses à perdre, mais demain j'ai plus rien à perdre, j'y vais tête baissée. Par contre, pas pour 500 000 comme les autres avaient fait, hein, parce que je suis pas en plein de 6 semaines. Donc le jour où vraiment je suis prêt à la gorge, qu'on m'aura foutu la tête sous l'eau, qu'on m'aura piqué tout ce qu'on m'a piqué, j'aurais plus rien à perdre. Moi je suis pas fermé du tout. Hein. Mais déjà, vous mettez un million sur la table et on commencera à discuter. On a moins de risques à rentrer une tonne de cocaïne à la limite que d'aller pêcher ce qu'on pêche. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de le faire et puis de pas se faire remarquer. Si demain j'ai à le faire, moi le bateau il sera en pêche, il se passera rien.
Donc c'est facile en fait.
Ah ben, je dirais qu'il y a rien de plus facile parce qu'ils en chopent un, mais à mon avis, il y en a 10 qui passent à côté.
Un témoignage d'un patron de pêche au micro d'Aurélien Tirard dans un reportage que vous pourrez écouter en longueur tout à l'heure dans le choix de France Info, ce sera à 7h10.
Et la police tente de contrer ses tentatives d'approche avec la mise en place d'un numéro d'alerte pour tenter d'obtenir du renseignement auprès des pêcheurs. L'importation de stupéfiants en bande organisée est passible de 30 ans de prison. En Australie, alors qu'une loi entre en vigueur le mois prochain pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, l'appli Snapchat prend les devants et elle va imposer une vérification d'âge dès cette semaine à tous ses utilisateurs australiens. La Belgique débute la semaine par 3 jours de grève nationale annoncée dans les transports, les écoles, les crèches, mobilisation contre les réformes envisagées par le gouvernement pour redresser les finances publiques. Les syndicats y voient un démantèlement social. En football, Olivier Giroud a réveillé Lille hier soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Il a marqué un doublé face au Paris FC et il reste au passage le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football. Lille s'est imposé 4-2 à la fin du match et remonte à la 4e place du classement.
Et puis, pour les amateurs de sport d'hiver, la neige fait des heureux en montagne.
Elle est tombée abondamment dans les stations d'Isère ce week-end et d'hiver aussi, et ça devrait continuer encore aujourd'hui, de quoi donner envie de glisser, Antoine Balandrin, comme ici au col de Porte dans le massif de la Chartreuse.
C'est un bruit qui fait plaisir. Le bruit des pas qui s'enfoncent dans la neige. Un appel entendu par Maude, venu de Grenoble.
On est content de voir de la neige. Mais les enfants, il faut les rééquiper. Mais une fois qu'on est là, ils sont contents.
Maude est accompagnée de sa fille.
Léonie, 6 ans.
Bien trop occupée à monter dans sa luge violette.
Allez, tu freines d'abord. Tu freines.
Juste à côté, Pierre et son collègue Younes chaussent les skis de fond.
Et ouais, ça y est, première fois de l'année. On est de Paris.
Vous êtes venu exprès ?
Non, on est venu pour travailler. On a un chantier sur Grenoble toute la semaine. Faudra pas le dire à mon patron.
Ah ouais. Descendu un peu plus tôt, quoi.
C'est ça, exactement, pour profiter.
Younes n'est pas hyper rassuré.
Première fois ce qu'ils font. On va tester tout ça.
Donc c'est le collègue qui vous a traîné là ?
C'est ça. Et lui s'y connaît très bien, du coup, je lui fais confiance.
Je vous donne les bâtons.
Merci beaucoup. Vous avez 2-3 petits conseils à me donner ?
Ne tombez pas.
Ok. Parallèle. Et c'est parti ! Ah non, me pousse pas !
Voilà, dans la neige fraîche et dans le paysage de carte postale du col de Porte à 1326 mètres d'altitude, l'histoire retiendra que Younes a parcouru 20 mètres avant de tomber.
C'était prévu, c'était annoncé. Hein.
Voilà, mais c'est pas grave, Younes, reportage ici, Isère, d'Antoine Balandra pour voilà. France Info. Je reviens pas, moi j'ai lu, Jean.
Non, ouais.
Vous
on
pouvez
se
y aller.
Lève, on se relève.
Merci Christine.
Merci Solène Cresson. Bah oui Christine, merci, oui. C'est un peu grâce à vous tout ça. Ça va, il va continuer de neiger ?
Oui, en ce moment il neige d'ailleurs à Bourg-Saint-Maurice et à Chamonix, mais la limite pluie-neige remonte à 1800 à 2000 mètres d'altitude. On attend encore sur les massifs, alors sur les Pyrénées un peu moins, mais sur les Alpes encore une dizaine de centimètres, un peu plus d'ailleurs à partir de 1800 mètres d'altitude. d'habitude pour aujourd'hui. Donc la neige va tomber mais en montagne et on a de la pluie. Des pluies soutenues surtout sur le sud-ouest jusqu'au massif central ce matin. Des pluies un peu plus intermittentes, plus au nord. Elles vont glisser sur Paris en fin d'après-midi. Et nous avons ces températures qui remontent. On n'a pas de gelée ce matin, on en parle tout à l'heure.